Alors, je poursuis avec les trois petits points de suspension qui caractérisent l'évaluation. Je voudrais d'abord vous dire que l'intervention prend appui sur le document que Patrick nous a remis relativement à vos réflexions autour des questions vives de l'activité professionnelle. Et donc, vous verrez qu'entre vos préoccupations et celles qui sont les miennes, il y a probablement de la résonance, même des liens très forts. Donc l'évaluation, c'est une pratique sociale qui, dans le contexte éducatif, est assez pesante pour plusieurs raisons. Je vais peut-être prendre les deux extrêmes de la liste d'éléments qui sont en face de vous. D'abord parce que c'est une pratique ressentie par les acteurs du terrain comme une pratique imposée, notamment lorsque l'on se penche sur les évaluations nationales et que l'on considère les situations dans lesquelles les enseignants sont mis pour mettre en place dans leur classe toute la démarche qui concerne justement cette évaluation des acquisitions scolaires. Alors c'est une pratique du coup imposée qui plonge les enseignants dans ce que nous avons appelé à Toulouse une insécurité évaluative. Il y a un sentiment de vouloir bien faire, mais avec un ensemble d'interrogations que se posent les enseignants pour non pas lire les résultats des évaluations. Ça, je pense que ça ne fait que confirmer ce qu'ils savent par rapport aux acquisitions des élèves, mais pour tirer parti de ces évaluations. Et sur ce point précis, la question de comment faire à partir de l'évaluation reste toujours une question en suspens. Donc on peut parler de remédiation, on peut parler de révision, de perfectionnement, il reste que les difficultés sont réelles. Et du coup, cette pratique évaluative qui doit être éclairante pour des régulations dans les apprentissages plonge au contraire les enseignants dans un sentiment d'impuissance. Bon. Je pourrais renvoyer aussi la question d'une expérience professionnelle déficitaire, puisque ça renverra juste du coup aux éléments apportés par Richard. Les enseignants se disent peu satisfaits des évaluations de leur propre activité professionnelle lorsqu'ils rencontrent un inspecteur, lorsqu'ils ont finalement évoqué l'activité quotidienne qui est la leur dans un temps particulièrement court, qui ne révèle pas l'ensemble du travail effectué et qui pose la question du coup de la reconnaissance professionnelle des acteurs. Bon. Donc cette expérience, vous voyez, d'une pratique sociale est une expérience déjà extrêmement chargée affectivement. Les ressentis sont nombreux, l'insatisfaction existe, et du coup on a affaire à des gestes professionnels qui se construisent sur le tas, qui n'ont pas été proprement travaillés en formation. Quand je travaille avec une conseillère pédagogique sur la manière dont les enseignants annotent, apprécient les travaux des élèves, on se rend bien compte que ce sont des pratiques plus ou moins clandestines, plus ou moins bricolées, dont les enseignants ont pris conscience des aspects, comment dire, équivoques de ces annotations et appréciations, et qui engendrent des quiproquos, voire des malentendus avec les familles et les élèves. Du coup, on se rend compte que, du point de vue de l'activité du chercheur, il faut travailler probablement sur ces gestes professionnels parce qu'ils sont reçus par des élèves, qu'ils sont reçus par des parents, et qu'il y a là, en matière de communication sur un travail, quel qu'il soit, des malentendus. Mais il y a aussi des obstacles épistémologiques, et je vais y revenir très, très rapidement, parce que je ne veux pas passer le clair de mon temps sur ces points qui sont pesants, et des compétences à construire. Alors, quand même, sur les obstacles épistémologiques, il y a nécessité quand même de faire la différence entre deux processus extrêmement importants, qui sont l'analyse, par exemple, d'un travail avec une classe, ou l'analyse d'une activité, quand on est un formateur observant une pratique d'enseignant, et l'évaluation et de ce travail et de cette activité. Donc autant l'analyse nous amène à avoir un regard extrêmement précis sur une situation, un apprentissage, le rendu d'une copie, autant l'évaluation est d'une autre dimension, elle suppose un regard de confrontation avec un système d'attente. Et du coup, c'est là que le bât blesse, c'est-à-dire que le processus de confrontation est d'emblée conflictuel. Tant qu'on n'acceptera pas l'idée qu'en évaluation, le fait de confronter une pratique, un travail, un référentiel, quel qu'il soit, élaboré, négocié, imposé, est de toute façon conflictuel. Il ne peut être question d'adéquation entre une pratique et un référentiel. Ça, c'est de l'ordre de l'utopie. Et bien souvent, on a cru qu'il suffisait de construire une grille de critères pour que ça fonctionne d'emblée. Et bien, une grille de critères est là pour montrer tous les points, de décalage, tous les points qui sont aux marges, tous les points auxquels on n'avait pas pensé en élaborant la grille de critères. Et du coup, il y a nécessité d'accepter un jeu entre la grille de critères et la production ou la situation professionnelle. Donc c'est un regard, non pas de tolérance, qui est en mobilisé, mais un regard qui accepte de comprendre que entre la conception d'une situation au plan des idées, la conception d'un attendu au plan de la formalisation des critères, et la situation effectivement mise en œuvre, ben, il y a nécessité d'un jeu, d'un déplacement, d'un décalage. Du coup, je crois que tant qu'on ne prendra pas conscience de ce phénomène qu'est la confrontation à un référentiel, qui est nécessairement polémique, nécessairement conflictuel, on aura peur d'évaluer, on considérera que l'évaluation, c'est méchant, c'est pas acceptable, etc. Or, il me semble justement que l'évaluation essaie d'établir un dialogue entre un souhaitable d'une situation, et non pas une situation normée à tout craint, un souhaitable, c'est-à-dire jusqu'où on peut faire pousser un potentiel de situation, d'activité d'apprentissage, et finalement, ce potentiel-là, est-il mis en œuvre ? Est-il en situation de se mettre en œuvre ? Est-il actualisé ? Est-il actualisable ? Bon. Donc vous voyez que l'évaluation, ça n'est pas de l'ordre de l'analyse. Et c'est pour ça que je pense que c'est un des premiers obstacles épistémologiques auxquels on a affaire quand on est enseignant, quand on est formateur, et quand on est un acteur, tout simplement, un salarié, c'est qu'il y aura toujours un retour, qui est un retour inattendu et qui peut parfois provoquer un inconfort. Oui, mais il m'a dit ça, oui, mais il a vu ça. Bon, effectivement, il y a aussi des inconforts auxquels on est soumis parce qu'on trouve que le regard est trop rude, est trop exigeant, est trop... Bon. Mais en tout cas, vous ne pourrez jamais gommer la partie polémique et conflictuelle de l'acte évaluatif. Deuxième gros problème épistémologique, c'est en même temps, je dirais, une résurgence dans la communauté scientifique de ce qu'on appelle le jugement professionnel par rapport à l'évaluation. Alors là, effectivement, je ne peux pas cacher le fait que ça me donne froid dans le dos, cette image de jugement professionnel, parce que ça voudrait dire, finalement, qu'il y a une réflexion rationnelle totalement possible sur des actes qui sont des actes éducatifs, qui échappent en partie aux acteurs qui les mettent en œuvre, qui échappent en partie à la conscience des apprenants, en partie à la conscience des acteurs eux-mêmes, et donc dans ces relations de transaction, nous dit bien Richard, poser un regard rationnel, ça me pose vraiment question, et surtout c'est une vision du processus éducatif qui devient rigide. Donc le jugement professionnel, il revient, alors il vient du Canada, il vient de la Suisse, on a affaire encore à quelques collègues en France qui font appel au jugement professionnel. Pour ma part, je préfère regarder du côté de l'évaluation, parce que si je m'interroge à ce que porte ce terme si important, il y a bien un mot valeur, et donc ça veut dire finalement quel prix à l'action d'apprentissage en classe, quel prix à l'activité. Quelle importance revêt pour un enseignant d'agir de cette manière-là ? avec un préfixe qui va avoir des significations extrêmement différentes. On peut très bien interroger la valeur d'un apprentissage, d'une activité. On peut très bien la confirmer. Et donc, des élèves sont tout à fait ravis d'apprendre que ce qu'ils ont fait, ça tient la route. Ben oui. Mais c'est aussi se poser la question de réguler cette activité, de réguler cette action, parce que tout n'est pas aussi de même nature, de même qualité. Et donc, on peut aussi penser à des ajustements, on peut aussi se poser la question de modifications qui visent à améliorer, finalement, une posture dans l'apprentissage, une activité d'enseignement, etc. Donc, tout cela pour dire que évaluer, c'est une activité intellectuelle qui suppose, bien sûr, que l'on accepte de mobiliser de façon explicite un certain nombre de critères que l'on a construits, et il y a une part de subjectivité irréductible. Les critères objectifs, ça n'existe pas. Un critère est choisi par un sujet humain, par un collectif de sujets, et donc c'est un choix, c'est une préférence qui a été mise en œuvre par ce collectif et par une classe, par exemple. Donc, quand mes étudiants me disent « ben oui, on a des critères objectifs », non, vous avez des critères élaborés collectivement, à dessein, en vue de faire quelque chose. Il y a donc eu un positionnement d'un enseignant, d'une classe, autour de critères à propos d'une tâche précise. Bon. Ces deux obstacles-là, analyser, évaluer, juger, évaluer, me paraissent être pérennes depuis, allez, comme toi, hein, Richard, à 20 ans, que je travaille sur ces questions. Donc, pérennes, ça veut dire qu'en permanence, il est utile d'y penser, il est utile de se poser ces questions, pour évoluer vers autre chose, c'est-à-dire, finalement, nous qui sommes des professionnels de l'éducation, quelle que soit l'activité en place, en jeu, est-ce que nous avons, pour notre propre gouverne, le sentiment de mobiliser des compétences d'ordre théorique en matière d'évaluation ? Mon objectif aujourd'hui n'est pas du tout de partir vers la théorie avec vous. Avons-nous mobilisé et sommes-nous au clair de compétences méthodologiques en évaluation? Et ces compétences méthodologiques, il y a un tableau qui vous sera remis tout à l'heure. C'est évident qu'on pose des évaluations en classe à certains moments, qu'il y a des temps privilégiés pour mettre en place des évaluations formatives, qu'il y a des temps privilégiés pour mettre en place des évaluations certificatives, que faire du diagnostic à tout craint, c'est terrible pour un élève qui est en difficulté, etc., etc. Donc des compétences méthodologiques qui montrent que on a pris le soin d'injecter des pratiques d'évaluative en connaissance de cause. Et puis, une compétence à laquelle je tiens beaucoup, qui est probablement la plus difficile, sur laquelle on se casse le nez, c'est ce que j'appelle les compétences sémiotiques, c'est-à-dire savoir entendre dans la parole d'un élève qui dit « je sais pas », un appel ou un refus, et l'aider à dépasser ce « je sais pas » par la narration de l'expérience vécue. Et je pense que c'est exactement la même chose avec des lycéens, c'est exactement la même chose avec des professionnels. Et vous savez que l'un des plus gros travers de l'enseignant, c'est d'utiliser l'espace de parole au lieu d'écouter. Et donc, dans les compétences sémiotiques, en évaluation, un des premiers travaux à faire, c'est d'apprendre à se taire. Et vous savez très bien que c'est très difficile, puisqu'on a tout de suite envie d'apporter une aide et de dire « mais t'as fait ça ». Et je vois que tu as fait ça, et je vois que tu as pris ça. Bon, et en fait, c'est votre vision des choses, et ce n'est pas celle de celui qui a produit l'action en question. Et c'est le même problème pour les formateurs qui accompagnent des professeurs stagiaires. C'est exactement la même chose pour un inspecteur qui vient évaluer, qui surenchérit sur un blanc, alors qu'il devrait au contraire essayer de partir de ce blanc. Bon. Les compétences sémiotiques, c'est aussi savoir observer un élève qui apprend. Et je vous parlerai tout à l'heure d'une expérience qui s'est passée à Nice et dans la région de Fréjus. Et puis c'est aussi un ensemble de compétences communicationnelles dont je vais vous reparler précisément. Donc, en matière d'évaluation, il y a des compétences. Il y a des compétences et puis il y a des gestes, il y a des manières de faire, il y a des manières d'agir envers l'élève qui font que on évite ce que Merle a appelé l'humiliation au collège, l'humiliation dans les retours. Et donc ces gestes-là sont gorgés d'éthique, sont gorgés de respect. Et du coup, vous voyez que ce savoir qui paraît peu maîtrisé est si important en classe parce qu'il traverse des activités de communication et d'interaction entre un enseignant, un groupe de pairs et l'élève. Et puis, c'est un savoir sur lequel, aujourd'hui, on a besoin de revenir pour deux grandes questions. Et c'est ces deux grandes questions-là que je voudrais vous soumettre. Un, les enjeux de l'évaluation professionnelle. Quand je suis formateur, accompagnateur de professeurs stagiaires, comment je construis avec lui, alors Richard dirait une professionnalisation, développement professionnel, comment j'essaie de construire avec lui quelque chose qui l'amène à porter un regard un peu exigeant avec sa pratique, un peu exigeant, c'est-à-dire qui l'amène à regarder des points d'une pratique qui sont pas uniquement les points classiques de la pratique. Je voudrais dire par là que, bien sûr qu'il y a l'action prescrite, bien sûr qu'il y a le travail de préparation de l'enseignant dans sa classe, bien sûr qu'il y a la construction de la séquence didactique, mais il y a aussi d'autres éléments dans une pratique enseignante, et ça vaut le coup de regarder à partir d'un référentiel sur lequel on a travaillé préalablement et qu'on n'impose pas comme ça, sur lequel on a décidé de porter une focale particulière. Les 10 compétences, est-ce qu'on va évaluer l'enseignant avec les 10 compétences ? Moi, je dis non. C'est une évidence qu'un enseignant qui apprend le métier, on va travailler avec lui sur une ou deux compétences dans une situation précise et l'amener à porter ce regard de confrontation polémique, ça vous le retiendrez, nécessairement polémique entre une activité et un système d'idées. Bon. Alors la confrontation à un référentiel, ça commence là à l'évaluation professionnelle. Mais vous voyez, tout à l'heure je vous ai bien dit, il y a d'abord la nécessité d'analyser. Alors effectivement, on ne peut pas se confronter à un référentiel tant qu'on n'a pas analysé l'activité. Et puis, il y a une nécessaire activité d'interprétation. Le référentiel n'est pas là pour dire « t'as pas fait ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça ». Non, le référentiel est là pour porter un regard interprétatif sur une situation vécue, sur un apprentissage, sur une posture d'apprentissage. Dans quel but ? De communiquer. De communiquer autour de la perception de cette situation, autour de l'analyse de cette situation, autour des éléments à prendre en compte pour l'avenir. C'est ce que j'appelle la relation dialogique. Tant que cette relation dialogique est de l'ordre du donner conseil, c'est-à-dire tu devrais faire ça, il y a un raccourci tel que de toute façon, Richard Etienne l'a montré dans X recherches, le donner conseil ne sert à rien. L'étudiant se referme, écoute la voix du maître savant ou du professeur avisé, et ça passe largement au-dessus. En revanche, il y a un auteur qui s'appelle L'Hôtelier, qui parle du tenir conseil, c'est-à-dire de la coélaboration entre l'accompagnateur et le professeur autour de pistes de travail et finalement le choix amenant le stagiaire à faire un choix sur des pistes qui lui paraissent tenables pour lui. Bon. Là, du coup, il y a un processus transactionnel dont parlait tout à l'heure Richard, qui s'appelle la reconnaissance professionnelle. C'est-à-dire à partir du moment où je suis dans une activité dialogique, où on se trouve dans la décision prise par le sujet d'essayer de modifier un petit geste, d'essayer de revenir sur un élément, il y a la prise en compte du vouloir et du pouvoir d'agir de celui qui est en train d'agir. Et donc cela, en termes identitaires, cela suppose une transaction tout à fait positive et qui prenne en compte les significations portées par le sujet lui-même. Alors, il y a tout un travail à faire sur la reconnaissance professionnelle dans les situations d'accompagnement. Moi, je commence à le faire depuis 2-3 ans, mais ce terme de reconnaissance est un vaste continent, et donc il faut encore avancer là-dessus. Il y a probablement dans la reconnaissance du professionnel, moi ce que j'appelle un enrôlement du sujet, c'est-à-dire que le formateur, tant qu'il n'a pas pris conscience qu'il y a un enrôlement de l'acteur dans la décision à venir sur un élément de pratique, sur une situation, eh bien le sujet ne se sent pas concerné et pas valorisé dans son pouvoir d'agir. Du coup, comment voulez-vous qu'il se projette dans l'action et qu'il ait envie d'y aller ? Bon. Donc vous voyez que la reconnaissance du professionnel, elle découle de cette instance dialogique très importante, mais en même temps, elle suppose, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre, et c'est Jean-Pierre Astolfi d'ailleurs, je tiens à le signaler, qui m'avait fait prendre conscience de ça, d'une manipulation consciente et tout à fait positive. Tant que l'enrôlement de l'apprenant, disait Jean-Pierre, n'est pas en jeu et pensé par l'enseignant, l'apprenant se sentira hors jeu. Eh bien, je pourrais dire exactement la même chose pour un professionnel. Tant qu'il n'y a pas ce processus d'enrôlement, c'est-à-dire d'implication du professionnel dans sa façon de voir les choses et de décider d'actions à venir, il y a très peu de chances pour qu'il ait envie d'y aller. Voilà pour, je dirais, un des grands champs de travail aujourd'hui sur l'évaluation professionnelle. Un deuxième champ de travail, l'évaluation dans les apprentissages. Il y a, me semble-t-il, sur le terrain, je continue à intervenir sur cette distinction qui est encore nécessaire à poser entre une évaluation formative, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement de l'élève dans l'apprentissage, et une évaluation certificative qui est de l'ordre de l'attestation de la maîtrise d'une compétence. Et je pense qu'aujourd'hui, on met ensemble ces deux éléments, et c'est tout à fait dommageable pour les pratiques d'apprentissage. Donc, il y a probablement une culture de l'évaluation à construire qui suppose deux choses. L'articulation entre l'évaluation formative et le contrôle, je pense que ça, c'est un des vrais problèmes des situations scolaires. On ne laisse pas assez de temps aux élèves pour apprendre, et en permanence on vérifie qu'ils maîtrisent une compétence, et donc là on est dans une surenchère de pratiques de contrôle. Résultat, l'apprentissage est gommé. On n'a pas le temps de faire produire des erreurs, on n'a pas le temps de travailler sur des G, des premiers G, des seconds G, des troisièmes G. Du coup, on est dans une contraction temporelle qui donne trop de place au contrôle et pas assez à ces processus d'accompagnement. Bon. Un deuxième grand problème, me semble-t-il, c'est d'oblitérer une dimension indispensable de l'évaluation. L'évaluation postule une posture engagée dans l'apprentissage. Vous ne pourrez jamais agir avec les élèves, on ne pourra jamais agir avec les enseignants si on n'agit pas avec eux. Donc l'accompagnement, il commence là, c'est-à-dire si l'élève, le groupe de pairs et l'enseignant n'agissent pas, n'expérimentent pas, ne regardent pas, n'observent pas, n'analysent pas, ne reformulent pas, ne reconceptualisent pas, n'interrogent pas, ouf, n'ajustent pas leur action. Donc, je veux dire par là que d'autres l'ont dit autrement, mettre l'élève en activité, c'est-à-dire enrôler encore une fois l'élève, c'est à partir de l'action que la réflexion prend source, et c'est pas dans un cours ex cathedra que les notions ont du sens pour les élèves. Alors évidemment, agir, faire agir, mais pas faire agir de l'extérieur, faire agir, agir avec les élèves. C'est pas faire agir les enseignants, c'est agir avec les enseignants. Et là, je pose un pavé dans la mare, c'est pas évaluer les enseignants, c'est agir avec les enseignants dans une pratique pédagogique. Alors, pour vous dire que ça, c'est pas du bluff, c'est que ce travail-là, il a, à mon avis, deux points de focale. Un des grands problèmes, il me semble, en situation d'apprentissage, c'est d'installer des repères pour faire. Installer des repères pour faire, ça signifie que si l'enseignant arrive avec son protocole tout fait, ben la co-construction des repères n'est pas en place, et donc les élèves perdront probablement la consigne, perdront l'objectif, perdront un ensemble d'éléments indispensables pour s'engager dans la tâche. Donc tant que les élèves ne sont pas mobilisés sur qu'est-ce qu'on vient faire ici, comment on s'y prend, de quoi a-t-on besoin, quels repères, quelles règles du jeu, et que tout cela ne s'élabore pas en classe, avec les élèves, avec les propositions énonciatives des élèves et non pas avec la reformulation synthétique de l'enseignant, on perdra la question formative de l'apprentissage. Deuxième point, ces élèves sont jamais trop d'accord entre eux, donc c'est bien l'idée de montrer une pluralité de points de vue et du coup de revenir sur une règle du jeu. Un critère, ça ne se construit pas parce qu'un élève l'a énoncé. Un critère, ça se construit par des reformulations multiples en situation et du coup, vous voyez bien que les élèves n'auront jamais la formulation de l'enseignant pour dire le critère. Enfin, on peut décider de la formulation collective du critère. Donc, la question de l'installation des repères, elle est dépendante, et je pense que Dominique, tout à l'heure, va énormément parler sur la place du langage, mais je pense qu'il y a des... La place du langage est totalement sous-estimée du point de vue de l'évaluation, et pourtant, elle participe à la prise de conscience des repères pour agir. Deuxième grand point, c'est l'instauration de pauses intermédiaires. Trop souvent, justement, parce que l'on ne s'est pas donné le temps des apprentissages, qu'on n'a pas permis de la temporalité pour apprendre, on n'a pas pu construire des pauses intermédiaires. Et du coup, il faut faire. Mais faire, ça peut se faire de façon à envisager ce que les psychologues russes nous avaient appris dans les années 80. Hein. Moi, je me souviens de Galperine. Qui disait que faire, c'était d'abord mentaliser une action, c'était déjà faire. Et mentaliser une action, c'est-à-dire se poser la question des repères pour faire. Mais c'est aussi, à un moment donné, de faire un point sur là où j'en suis, de ce que j'ai à faire. Et donc ces pauses collectives qui permettent de mettre au jour les points d'appui des élèves, les ressources dont ils disposent pour avancer dans la réalisation de leurs tâches, ne sont jamais des temps... superflu, bien au contraire, ils permettent à ceux qui y ont décroché quelquefois de se dire ben moi j'ai pas fait ça, moi j'ai pas utilisé ça, ah bon, ah ouais, c'était important, etc. Et donc il y a des prises de conscience retardées mais nécessaires dans ces pauses intermédiaires. Ensuite, il y a des pauses individuelles avec l'enseignant, c'est-à-dire qu'effectivement vous parlez de l'accompagnement des élèves et justement il me semble que j'ai noté la valorisation du travail adaptatif de l'élève. Ben, la valorisation du travail adaptatif de l'élève, ça repose sur l'accompagnement ciblé de certains élèves complètement en rade dans la classe. Et peut-être l'oubli des critères. Et sûrement l'oubli des critères. Il y a d'autres choses à travailler. Alors, préparer l'élève à apprendre, c'est la recherche qui a été conduite à Nice dans des lycées professionnels avec Joël Tozo. Nous avons réuni, il y a 3 ans, une équipe d'enseignants volontaires. Volontaires pour essayer de voir qu'est-ce que c'était que cette idée de préparer un élève à apprendre. Donc, on s'est adressé à des élèves qui avaient 15 ans, hein, 15 ans à peu près. Et donc on s'est aperçu que, bien sûr, ces fameux repères pour agir étaient absolument problématiques et tous les formateurs, alors on avait le prof de couture, le prof d'atelier mécanique, le prof de peinture, se disaient « mais j'en perds la moitié, on n'a pas commencé, j'en ai déjà perdu la moitié bon. ». Donc préparer un élève à apprendre, ça a supposé pour nous de regarder comment il s'y prenait pour faire, justement. Et du coup, on a dégagé des postures dans l'apprentissage, et ce collectif d'enseignants a mis en place des co-observations à partir des postures que je vais vous présenter. Qu'avons-nous décliné ? Nous avons identifié une posture focalisatrice. Alors vous allez me dire, posture focalisatrice, c'est peut-être savoir... voir si cet élève a entendu de ce qu'il vient faire là. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il sait dans quelle discipline il est ? Est-ce qu'il sait de quoi il est question à travers une tâche précise ? Est-ce qu'on se reformule les objectifs spécifiés pour agir, etc. ? Donc on s'aperçoit effectivement que cette posture focalisatrice est déjà un premier niveau de déperdition de l'élève par rapport à l'action. Alors on s'est donc donné des indicateurs d'observation. Qu'est-ce que c'est qu'un élève qui finalement se focalise sur la tâche? Deuxième posture, une posture d'investigation. Est-ce que l'élève utilise les outils adéquats à dessein dans un but particulier? Est-ce qu'il va chercher de l'info? Est-ce qu'il va demander une aide? Est-ce qu'il va reprendre un document qu'il avait antérieurement? Est-ce qu'il mobilise sa mémoire didactique, sa mémoire des apprentissages? Bref, un ensemble de ressources qui font partie de ce qu'on appelle une compétence, qui font que cet élève est dans une position d'action et de mobilisation de ce qu'il peut mobiliser à un moment donné pour résoudre la tâche qui lui est proposée. On s'est rendu compte aussi que plus ces élèves étaient mobiles dans l'apprentissage, plus ils avaient des interactions entre eux. Et on a regardé, et ça, c'est pas une nouveauté, mais c'est quand même des choses qui existent depuis les années 80 aux États-Unis, qui ont été retravaillées à Genève, qui ont été reprises en France, c'est la capacité des élèves à dialoguer autour de leur action, et donc à mettre en relief les points sur lesquels ils butent, les éléments sur lesquels ils se sentent, ils ont fait quelque chose, donc à décrire l'action sur laquelle ils sont en train d'avancer. Cette posture dialogique est une posture où des élèves s'entraident, où des élèves s'interpellent parce qu'ils ne sont pas d'accord, où des élèves réfutent leurs propos et leurs propositions et contre-argumentent, etc., etc. Donc cette posture dialogique, bon, je ne vais pas renvoyer quand même à Vygotsky, tout le monde le sait, hein, le langage permet une conscientisation progressive de notions, concepts, etc. Dernier élément, on s'est rendu compte que la posture réflexive était absolument défaillante. Pourquoi ? Ben parce que dès qu'on a fini, on rend un travail, on s'en débarrasse. Et donc la culture de l'action dans l'enceinte scolaire est une culture de « je me débarrasse de la tâche qui m'est proposée ». Mais en même temps, on pourrait dire qu'un adulte, il fait un peu pareil. Hein. Moi, la première d'ailleurs. Bien sûr, j'ai une culture de l'action, parfois extrêmement rapide et trop rapide. Et cette culture de l'action trop rapide fait que, ben, on retourne pas sur la fiche de critères. Fait qu'on a oublié les règles du jeu qu'on s'était données. Fait qu'on a oublié le système d'attente et la consigne de départ. Et cette cécité-là, tout le monde l'a ici. Il n'y a pas un seul sujet humain qui soit capable de dire « ma culture de l'action m'amène à revoir, revisiter, reprendre, etc. » C'est faux. Sinon, il ne peut plus agir parce qu'il est quand même en situation de vouloir aller de l'avant. Donc il y a peut-être là une culture de la réflexivité qui est finalement, qui demande ce que certains appellent la secondarisation, c'est-à-dire un retour sûr qui est un retour construit, qui est un retour qui n'est pas de l'ordre de l'instinct, mais qui est de l'ordre de la réflexion mûrie sur l'activité. Et ça, cette posture réflexive-là, on s'est rendu compte que, en général, elle avait de chance, elle avait une chance d'exister quand on était dans des groupes de travail à 4-5 élèves. C'est rarissime de voir un élève individuel dans une posture réflexive. Je vais finir maître. Donc, se préparer à observer et à analyser les postures des élèves, c'est de mon point de vue l'enjeu premier de la formation des enseignants. C'est-à-dire que tant qu'on n'apprendra pas aux enseignants à observer comment procède un élève quand il fait, on le laissera démuni devant les difficultés que rencontrent les élèves. Deuxième point, il me semble que l'analyse des niveaux de complexité des situations et des tâches est extrêmement importante en classe. Et je trouve qu'il y a une surenchère de tâches d'un cycle à l'autre pour l'école élémentaire qui font que finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de proposer trop souvent les mêmes tâches et est-ce qu'on s'est mis d'accord entre enseignants pour faire une gradation des tâches? Je crois que ça, c'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui. Enfin, repérer les types de réponses construites par les élèves. Et pour cela, moi, je mobilise une grille que je reprends à Bernard Ray, qui est extrêmement simple, mais en même temps très parlante pour les enseignants. C'est l'idée de comprendre qu'il y a des tâches simples qui demandent une actualisation, je dirais, élémentaire d'un savoir, d'une pratique, d'une action. La situation est connue, c'est une tâche répétitive, l'élève sait s'y prendre. Bon. Mais on peut avoir une compétence élémentaire avec ce que cela suppose de processus d'interprétation, c'est-à-dire une compétence qui a un air de famille, enfin une situation qui a un air de famille avec une situation travaillée en classe, mais qui va imposer à l'élève, au groupe d'élèves, de se dire, tiens, ça ressemble à, c'est pareil que, on l'a fait dans une situation, mais ça demande de faire ce rapprochement-là. Et un troisième niveau de compétence qui, me semble-t-il, est probablement une des plus difficiles à mettre en place, c'est non seulement de supposer que les élèves soient dans un processus d'interprétation de la tâche, c'est-à-dire arrivent à relever le niveau de difficulté qui est mobilisé, et puis convoque des savoirs venant de différentes dimensions pour réaliser cette tâche. Et donc sur la compétence complexe, aujourd'hui, on est encore assez loin.